Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Touchdown Actu consacrée à la draft NFL et au podcast quotidien consacré aux besoins prioritaires de votre équipe NFL préférée. Aujourd'hui, on s'intéresse aux Tampa Bay Buccaneers, champion en 2020, battu par le futur champion en 2021. On s'attendait à une intersaison un petit peu compliquée pour les Bucs avec la vraie fausse retraite de Tom Brady. Il n'en a rien été. Je vais rappeler un petit peu les différentes composantes de cette free agency après avoir salué mon camarade, monsieur Alexandre Locke. Salut Alex.
Salut Greg, salut tout le monde.
Alors, on aurait pu penser qu'il allait avoir beaucoup de besoins du côté de Tampa hein, dans l'optique de cette free agency. Beaucoup de joueurs vétérans qui étaient revenus notamment pour le baroud d'honneur hein, pour essayer d'assurer le doublé qui arrivait en fin de contrat. Bien que Nini, le retour de Brady le jour même de la free agency a changé beaucoup de cartes du côté de Tampa Bay. On a notamment le retour de Leonard Fournette sur le poste de running back. On a assuré le retour de Chris Godwin sur le poste de receveur tout en signant Russell Gage, l'ancien receveur d'Atlanta. Sur la ligne offensive également, on a réussi à mettre la main sur Chuck Mason, le garde des Pats arrivé via un trade pour compenser le départ d'Alex Kappa du côté de Cincinnati. Et puis au niveau de la défense, on a réussi à rempiler également Carlton Davis tout en signant notamment des safety Keanu Neal en provenance de Dallas et Logan Ryan cuté par les New York Giants. Les choix des Buccaneers durant cette draft, hein, la première de Todd Bowles en tant que head coach des Buccaneers après la retraite de Bruce Arians, que je n'ai pas mentionné précédemment. On a donc un premier tour, un deuxième, un troisième, un quatrième et deux septièmes. Donc pas beaucoup de choix pour les sleepers. Hein. On nous a pas laissé une marge de manœuvre énormissime du côté de la Floride. Quels sont les besoins apparents selon toi du côté de Tampa, Alex ?
Des besoins, est-ce qu'il y en a seulement ? C'est pas sûr. comme tu l'as dit, hein, c'est une équipe qui a fait voilà, son volte-face juste avant le début de la free agency. Donc, d'une équipe qui était en transition, on devient une équipe très, très largement favorite avec peu de besoins. Peut-être du renfort sur la ligne offensive avec donc les retraites de Marpet et le départ de Kappa. Ça, c'est vraiment une possibilité parce que pour protéger Brady, ça peut pas être du luxe de toute façon. Et après, pour moi, là, j'allais dire peut-être le poste de safety, mais bon, Logan Ryan est arrivé, donc je pense que ça couvre, surtout qu'il a cette polyvalence qui peut lui permettre aussi de jouer sur les extérieurs éventuellement. Après, il y a l'inconnu au poste de tight end, dans la mesure où Gronkowski n'est pour l'instant pas revenu. Il fait durer le suspense. Howard est parti du côté des Bills. Donc, ça reste assez mince. Et bon, pour le coup, Brady, il aime bien les tight ends. J'allais dire que c'est peut-être le poste qu'il y a aujourd'hui, au moment où on se parle, où il y a le plus gros besoin.
En effet. Alors, j'ai le lead hein, sur les Buccaneers. Hein, vous le savez, dès qu'il y a une équipe de NFC Sud qui n'est pas Atlanta, je jette mon dévolu dessus. Ce premier tour, je te rejoins sur quelques points, notamment la position de tight end en attaque. Après, globalement, ça me paraît plus complet en attaque qu'en défense. Donc, ça me paraît compliqué de ne pas considérer la défense dans ce cas de figure-là. On n'est jamais à l'abri à ce qu'il y ait d'autres vétérans qui, pour le bon tarif, reviennent. Maintenant, je sais que ça va faire plaisir à Jean-Michel Boujard, ce que je vais annoncer. J'ai du mal à le projeter en tant que premier tour. Et je le dis honnêtement, j'ai du mal également à savoir où se situe Devante Wyatt, qui, je pense, s'il est disponible en 27 et une occasion à saisir pour Tampa Bay, je pense qu'il ne sera pas disponible. Du coup, je suis parti sur Perrion Winfrey. Alors, si vous ne connaissez pas Perrion Winfrey, alors en 27e choix ou plus bas hein, potentiellement, parce que je ne le vois pas premier tour, ce n'est pas pour ça que Tampa serait pas tenté comme une mock draft qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça de faire un trade down pour éventuellement récupérer le joueur qui leur plaît. Perrion Winfrey, vraiment joueur. Comment expliquer ça? C'est le joueur brut par excellence, mais c'est un joueur qui a un potentiel vraiment énorme. On parle beaucoup de Trevon Walker, par exemple, au début du premier tour. Perrion Winfrey, il a eu un parcours assez sinueux, arrivé notamment de junior college durant son process universitaire. Donc, vraiment considéré comme le meilleur joueur de junior college à son arrivée du côté d'Oklahoma. Et on a clairement vu pourquoi, c'est-à-dire que c'est vraiment une bête physique. Et c'est un joueur qui note une capacité à être hyper véloce, un premier pas vraiment extrêmement dangereux, presque trop dangereux même pour lui des fois, je vais préciser mon propos. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui est capable de faire du grabuge sur la ligne défensive et qui, en complément par exemple d'un Vitavea, peut être absolument létal pour émettre la pression et être capable de libérer des espaces. Donc vraiment un phénomène physique. Le principal souci concernant Perrion Winfrey, et ce qui peut lui coûter un premier tour à mon sens, c'est la discipline. C'est un joueur qui a tendance à en faire un peu qu'à sa tête, enfin, en tout cas qui a des trous d'air vraiment extrêmement notables, qui concède des flags vraiment assez bêtes, et notamment sur des short yardage ou ce genre de choses, ce qui peut être vraiment crucial en NFL. Mais sur le papier, on peut difficilement se dire que Perrion Winfrey n'est pas suffisamment athlétique pour être un premier tour.
Oui, je te rejoins. Moi, c'est pas un joueur que je vois au premier tour. Voilà, je vais me fâcher avec Jean-Mi, mais bon. Par contre, je te suis sur le besoin. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'avec le non-retour pour l'instant de Sou, Vitavea, par son profil, a quand même besoin d'avoir un peu de renfort à côté de lui. Donc, ça va être là aussi une question d'opportunité. Il peut y avoir tout à fait un trade-down, effectivement, vers la 38-40e place. Et là, Winfrey, ça devient beaucoup plus logique en ce qui me concerne. Je pense que par le peu de besoins qu'ils ont, les Bucks, comme on disait tout à l'heure, ça peut être vraiment une question de meilleurs joueurs disponibles pour ce pic. Ça peut être une opportunité d'un joueur qui tombe, même si ce n'est pas vraiment un besoin. Donc, il faudra suivre les statuts et les sélections de corner, pourquoi pas, parce que c'est pas vraiment le poste où ils, même si, alors Carlton Davis est excellent et il a prolongé, mais c'est pas là où ils sont le plus irréprochables. Donc s'il y en a un qui tombe, ça peut être un poste à suivre. Idem pour les gardes, parce qu'on disait tout à l'heure le départ de Kappa et la retraite de Marpet, mais ça reste peu probable que les profils premium, si on peut dire, soient disponibles. Donc moi je serais peut-être bien parti sur un safety. Même avec l'arrivée de Ryan, on avait un peu parlé ensemble il y a quelques émissions de ça, mais un Jaquan Brisker en fin de premier tour, je trouve que ça reste assez ça reste une bonne pioche. Son profil très polyvalent à côté d'un Winfield qui n'est pas beaucoup moins, ça serait un duo qui serait plutôt intéressant pour les années à venir. Il pourrait le balader aussi dans le slot, pourquoi pas. Donc voilà, mais après je te rejoins sur cette possibilité Winfrey pour consolider la ligne qui, pour Todd Bowles aussi, peut être une bonne base de travail de toute façon.
Tout à fait. Ça peut en effet être un choix intéressant, safety, même si oui, il y a pas mal de joueurs, mais on ne cesse de le répéter, il y a des backfields de plus en plus fournis en NFL. Il suffit de voir le nombre de safety qu'ont les Pats, par exemple, pour se rendre compte que ce n'est pas forcément un luxe des fois d'avoir des hommes à tout faire sur l'intérieur du backfield. Ton deuxième tour, lequel, dans la logique de la draft, pardon, j'ai un petit trou de mémoire, de Jaquan Brisker, pardon, lequel serait-il?
Eh ben, j'en ai parlé tout à l'heure du poste de tight end, donc on va partir sur Trey McBride, le tight end de Colorado State, qui, en l'absence de Gronkowski, semble être une solution plus que viable à court terme pour Brady, par ses mains sûres, par son intelligence de jeu et sa qualité de tracé. C'est un joueur qui a montré qu'il savait aussi contribuer dans la protection de passe. Donc, ça me semble être en 60. Je pense que c'est pas loin d'être son spot. Alors après, ça va dépendre. Ça risque d'être le premier tight end sorti. Donc, peut-être qu'on va me dire il faut monter un peu pour aller le chercher. Moi, je pense que fin de second tour, ça reste son, son spot à l'heure actuelle. On n'est pas sur un profil, j'allais dire, ultra dominant comme l'était TJ Hockenson quand il a été drafté en 8. Donc, je pense pas qu'on puisse l'envisager comme un premier tour ou un début de second tour. Maintenant, voilà, je pense que s'il est disponible, c'est pas une hésitation pour les Bucks dans la mesure où, comme je disais tout à l'heure, ça c'est pour moi leur besoin presque numéro un.
On est d'accord, j'en parlerai sûrement tout à l'heure peut-être des tight ends. Mais pour mon deuxième tour, je suis resté en défense. Je suis parti sur un cornerback où je pense qu'il y a des besoins encore plus prégnants que sur l'intérieur. En fin de deuxième tour, une opportunité qui pourrait se présenter pour les Bucks, c'est celle de Tariq Woolen, cornerback de UTSA, joueur extrêmement athlétique. Il l'a démontré d'ailleurs au cours du Combine, ancien receveur, donc doté de mains assez intéressantes. Techniquement, ce n'est pas un joueur qui est extrêmement poli à l'heure où on se parle, mais avec Todd Bowles, qui a quand même une certaine expérience et du secteur et de la position, ça peut être quelque chose de non négligeable pour justement lui permettre de se perfectionner et potentiellement de devenir au moins dans un premier temps un cornerback numéro 2 crédible derrière Carlton Davis. Donc voilà, Carlton Woolen, Tariq Woolen, ça ferait un bon duo Carlton Woolen, mais en tout cas Tariq Woolen qui pourrait être une bonne affaire, lui qui continue de grimper dans la hiérarchie des big boards, qui pourrait être sélectionné par les Buccaneers dans cette optique. Au niveau de mon sleeper, écoute, je suis parti sur un tight end et en l'occurrence, on va dire aux alentours du. Alors, de toute façon, j'allais dire aux alentours du 4e, 5e. Ils ont un 4e et 2 7e, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, peut-être plus aux alentours du 4e tour. C'est pas mon joueur préféré dans cette cuvée de tight end, mais je serais plutôt parti sur un profil comme Charlie Collard, qui présente la faculté de pouvoir être une vraie menace, notamment en zone rouge. C'est un de ses faits principaux, le fait de réussir à concrétiser les actions et de marquer les touchdowns. Physiquement, il n'y a rien à les reprocher non plus. Hein. C'est un très, très bon bloqueur globalement. Ça reste assez complet, mais je trouve qu'il a en plus ce panel-là pour optimiser tout le boulot qui sera fait entre guillemets à côté, en tout cas dans un premier temps. C'est-à-dire que voilà, quand on voit toutes les menaces, toutes les cibles, notamment extérieures, à disposition de Tom Brady, avoir en plus un autre tight end outre Cameron Brake qui est capable de sortir de la boîte pour éventuellement capter des ballons en zone rouge, je pense que ça peut être un joueur assez intéressant et un joueur à développer en tout cas sur le moyen terme, parce que voilà, je pense pas qu'avec un quatrième tour ce soit un pari vraiment démentiel. Je te rejoins totalement, je pense que si Trey McBride est disponible, ce sera une bonne chose. Maintenant, on est vraiment sur une classe de tight end où si on a envie de faire des affaires aux alentours du troisième, quatrième tour, je pense qu'il y a moyen d'être servi.
Ouais, je te rejoins. Moi, je suis parti sur plutôt le pass rush, malgré la présence de Barrett et la sélection de Tryon l'année dernière au premier tour. J'aime beaucoup D'Angelo Malone de Western Kentucky, et je pense qu'avec leur quatrième tour, ça peut être une solution. Pour moi, c'est vraiment un joueur qui, dans une rotation, voilà, derrière les deux joueurs que je viens de citer, pourrait vraiment s'épanouir. Il a été productif ces quatre dernières saisons à Western Kentucky. C'est vraiment un joueur pour ce schéma-là, en 34. Il a montré qu'il savait aussi voler des ballons, parce qu'il a quand même un nombre de fumbles forcés assez impressionnant. Donc voilà, début de quatrième tour. Alors c'est vrai qu'ils ont peu de choix et qu'on pourrait essayer d'aller vers la ligne offensive justement au quatrième tour, où souvent on peut trouver des affaires intéressantes. Mais c'est vraiment un joueur qui me semble être ce profil de pass rusher pris au quatrième tour qui devient dans deux ou trois saisons un vrai, vrai bon joueur, comme on l'a vu Josh Sweat aux Eagles ou Za'Darius Smith aux Ravens puis aux Packers. Donc voilà, D'Angelo Malone, c'est un petit coup de cœur de début de quatrième tour.
Oui, je te rejoins. Joueur que beaucoup pressentent comme un linebacker 34 classique, mais qui ne serait même pas forcément déconnant sur un poste de... Alors, DN43, je ne sais pas, mais peut-être sur un poste de tight linebacker un peu blitzer. Mais je te rejoins dans le système défensif des Buccaneers. Très clairement, dans une 34, je pense qu'il aurait moyen de trouver sa place et au bout d'une année, peut-être d'adaptation, en effet, de se développer efficacement dans la défense floridienne. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur les Tampa Bay Buccaneers. Je te remercie Alex d'avoir été en ma compagnie et je serai encore plus honoré d'être en ta compagnie demain pour le focus sur les Green Bay Packers. Quelque chose à dire quand même sur les Packers, c'est que notamment leurs deux premiers tours de draft. D'ici là, passez en tout cas une très très bonne journée. Et n'oubliez pas que toute l'actualité de la NFL, c'est sur TouchdownActu.com. Salut à tous.